Tous les mois, sur Fréquence Mistral, retrouvez votre émission littéraire Des coups au cœur. Émission proposée par Anne-Marie Smith et Tiziana. L'association Littéra 05 vous propose de voyager au gré des pages et de vous évader avec les bouquins coup de cœur.
Bonjour, auditeurs de Fréquence Mistral. Je suis très contente de vous retrouver pour la découverte d'un nouveau livre. Il s'agit du livre Berlin de Céline Righi, qui a été publié aux éditions du Sonneur en 2022. Céline Righi, une jeune autrice, qui a donc publié son premier livre qui s'appelle Berlin, et c'est donc ce livre que je vais vous présenter. Deux mots sur elle. Elle est née en 1973. Elle est petite fille de mineur. Elle vit à Strasbourg. Elle a été professeure de lettres modernes, mais elle a quitté l'éducation nationale en 2018 pour se consacrer entièrement à ses activités d'écriture. Elle ne se contente pas d'écrire un livre, elle est aussi chanteuse, parolière. Elle prête sa plume d'ailleurs à de nombreux artistes. Elle anime aussi des ateliers d'écriture destinés aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et elle intervient également auprès des détenus de la maison d'arrêt de Strasbourg. En septembre 2021, elle remporte à l'unanimité le grand prix du jury du concours « Lire pour en sortir » parrainée par Leïla Slimani. Elle nous présente elle-même son livre Berlin, donc un livre publié en 2022. Elle a écrit « L'univers minier m'a toujours intriguée, sans doute car mes deux grands-pères étaient mineurs. Celui paternel travaillait dans la mine de fer à Ussigny, celui maternel dans une mine de charbon à Folquemont. J'avais envie de rendre hommage à ces hommes du fond, sans oublier les femmes qui, souvent, s'occupaient des gosses, du manger, du ménage. Cet univers me touche beaucoup, il me ramène à mon enfance. Et dans ma famille, on s'est toujours évertué à transmettre le flambeau, la mémoire. » Et en effet, donc, Berlin se passe quelque part dans le pays haut, aux alentours des années 60. Je vous lis le début. Il ne sait pas depuis combien de temps il est là, sous la chose. Il se demande s'il est vivant ou mort, mais s'il se pose la question, c'est peut-être qu'il est encore un peu vivant. Il sent qu'il a mal. La sensation est confuse, comme lorsque l'hiver vous pince le bout des doigts et que vous ne savez pas dire si c'est gelé ou brûlant. Il ne se souvient de rien. Tout a explosé. Sa mémoire, son corps, en morceaux sous la caillasse. Il a tout d'un mort, mais il respire, c'est déjà ça. Si tant est que l'on puisse appeler respiration un halètement de chien. Il se demande dans quel état il est, son corps le renseigne mal. Une sorte d'anesthésie de la chair. C'est peut-être comme ça que ça fonctionne quand on est en compote. Tout se verrouille, les signaux se coupent, une espèce de sécurité qui s'enclencherait automatique contre une douleur qui sans ça tournerait au supplice. À moins que ça se réveille plus tard, il verra bien. Pour l'instant, quand il essaie de remuer sa carcasse, ça se tait. Fernand, réveille-toi. Les mots surgissent d'il ne sait quel abîme. En même temps apparaît une forme oblongue, brumeuse, un peu moins noire que la nuit dans laquelle il s'acharne à survivre. Ces mots, ce sont les premiers qu'il entend depuis l'effondrement. Pas possible de dire si ça parle à l'intérieur ou à l'extérieur de lui. Ça pourrait venir du dehors, si l'onde de choc ne lui a pas rompu les tympans. Il ne serait donc pas tout seul? Il y aurait un autre corps non loin du sien? Le Mario, peut-être? Si seulement. Ensemble, ils pourraient s'encourager, tenir bon en entendant qu'on les trouve et qu'on les sorte de là. Fernand, réveille-toi. Les contours de la forme se précisent, ça a des ailes, un bruissement de plumes. La forme vole en suspens devant ses yeux, croit-il. Mais ce n'est pas possible, on ne peut rien voir, c'est le noir absolu. C'est dans son esprit, c'est forcément dans son esprit que la forme s'est nichée. Car il n'y a personne ici, personne. Le Mario a dû s'envoler, retomber et probablement crever comme tous les autres. Cette voix noire qui lui parle, c'est sa tête de pioche qui la fabrique. Donc Fernand, le personnage, le narrateur, mineur de fond et piégé, après un éboulement, sous une berline. Une berline, ce sont ces wagonnets qui circulent dans les galeries de mines de fer. Une terrible explosion, donc, a eu lieu. La terre qui s'était éventrée dans un barouf sans nom, qui avait vomi l'enfer. Le minerai qui avait explosé. Les outils, les machines, les wagons, les gars, tout, tous projetés à des dizaines de mètres sous l'effet de la pression de l'air. Un feu d'artifice de pierre, de bois, de métal, de mineur. Ce qui n'était pas humain, ce qu'il était, tout avait valdingué pour aller s'écraser contre les parois. La guerre, quoi. Des explosions, des bombardements, des cailloux, de la terre, du feu, de l'eau, les braillements des gars, la fin du monde. Un fracas du diable, du diap, le père aurait dit en engloutissant la dernière syllabe du mot. Il n'a jamais compris pourquoi le père bouffait ce mot, et seulement ce mot-là. Mais ce n'est pas très important. Alors que les gémissements, grognements, beuglements des gars, si. Dans la nuit souterraine, les flammes, l'odeur du brûlé, une tempête jaune et noire, le feu s'en mêlant à l'eau. Les galeries inondées, les fumées toxiques, les tourbillons de poussière s'enroulant autour des hommes comme des serpents, les ligotant, les étranglant jusqu'à les étouffer. Tout hurlait, s'affolait, flambait, ça s'écroulait de partout. La terre ouvrait grand ses mâchoires, les refermait, dévorait, broyait, engloutissait, digérait les hommes. Combien de temps ça avait duré? Il ne sait pas. Une éternité. Lui, comme tout le reste, avait décollé, volé comme un boulet de canon. Un rêve de gosse qui se réalisait enfin, volé, sans ailes, sans avion. Homme oiseau au milieu des gars et des cailloux. Il s'était même demandé s'il n'avait pas la berlue, parce qu'il avait cru en croiser d'autres, là-haut, qui volaient aussi, noirs comme des ramoneurs ou jaunes comme des abeilles barbouillées de pollen. Tout volait, les machines, les cailloux, les hommes, d'ailleurs pas toujours entiers. Il avait cru voir valdinguer des morceaux de mineurs. Il n'est pas sûr de cela non plus. Lui s'est levé tout droit vers le bon Dieu de la mer, il avait pensé. Mais non, son heure n'était pas encore venue, faut croire, parce qu'il n'était pas monté directement au ciel. Il avait bifurqué pour aller s'étaler la chair contre la paroi. Et avait entendu craquer son dos en plein sur la colonne vertébrale. Il avait atterri. Ça lui avait coupé la respiration, aussi net que la mer lui coupait le sifflet quand il s'aventurait à lui poser des questions sur le passé. Cassé en plusieurs morceaux, 1000, il pourrait dire, comme si on lui avait mis un bâton de dynamite dans le cul. Et boum, en confetti le Fernand. Ensuite, ou en même temps, il ne saurait dire, un bruit de métal avec la résonance d'une cloche s'était renversé sur lui comme un couvercle. La chose, un miracle qu'elle ne l'ait pas touché. Ensuite, ou en même temps, il ne saurait toujours pas dire, il était tombé dans les pommes. Une nuit encore plus noire que celle de la galerie, puis avait fini par se réveiller, mais en compote, dans un enfer où tout avait été dévoré par la nuit et le silence. Le Mario, les gars, le décor, tout, l'extinction totale. Une nuit plus noire encore que les plumes des oiseaux des champs. Je veux pas crever! Maintenant, c'est le vrai lui qui hurle pour de bon, et il s'entend, au moins il n'est pas sourd. Une lame de fond, un typhon, une rage souterraine force son passage à travers lui. Ça lui tord le visage, ça lui déchire ses lèvres desséchées. Il gueule sous la terre, appelle, braille, aboie, un truc à se faire avaler par son cri. Il gueule, et en retour, reçoit le crachat du silence. Alors depuis combien de temps est-il là, dans le noir le plus absolu, complètement immobilisé, donc rendu aveugle? Mais quelque chose se passe. C'est comme s'il y voyait de mieux en mieux. En lui, il y a quelque chose qui se rallume. Il entend comme une voix intérieure. Et Fernand va se mettre à écouter cette voix intérieure. Son enfance, par exemple, explose, nous dit-il, comme un coup de grisou. Des portes, jusque-là verrouillées, s'entrouvent sans qu'il y puisse grand-chose. Il entend une voix qui lui pousse de l'intérieur et semble le connaître mieux qu'il ne se connaît lui-même. C'est, nous dit-il, un oiseau noir qui lui parle, qui fait surgir des souvenirs. Alors des souvenirs, comme ça donc, ressurgissent. Il se rappelle par exemple ses débuts dans la mine. Il prend conscience des raisons pour lesquelles il est devenu mineur, alors qu'il ne voulait absolument pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens si tu descends pas ? Tu veux nous faire honte, c'est ça ? Il avait tenté de jeter un gravillon dans la mare familiale, mais la mère savait le faire plier sur ses genoux frondeurs, son fils. La culpabilité est un ciment des plus résistants, et il en était tartiné depuis sa naissance. C'est bien simple, il se sentait coupable de tout. D'être venu au monde, d'être resté en vie, de la brutalité de la mère, du dos courbé du père, de tous les malheurs de la terre. Une luciole se grillait au feu de l'ampoule, coupable. On trouvait un lapin crevé dans le clapier, coupable. Un avion s'écrasait, coupable. Un tremblement de terre secouait une région du monde, coupable. Le Mario lui tiquait ses billes, lui piquait Martha, coupable. Tout ce qui arrivait était de sa faute. Bon sang, il n'aurait jamais dû se laisser faire. Il aurait dû, comme l'oncle, aller bosser dans l'acier au bled d'à côté. Parce que jardinier, il pouvait tirer un trait dessus. Restait donc l'usine, moins dangereux que le fond peut-être, et aussi moins pénible. Et encore, il en avait entendu de belles, ça rigolait pas non plus là-bas. Mais voilà, ça avait toujours été comme ça. Chez eux, on se transmettait la mine de père en fils, comme un flambeau depuis la lampe à feu nu jusqu'à l'électrique, en passant par la lampe à carbure. Et lui n'avait pas osé s'opposer. Ça aurait fortement contrarié la mère qu'il ne marche pas sur les pas du père, du pépère, de l'arrière-grand-père. Et avoir la mère sur le dos chaque jour que son bon Dieu faisait, merci bien. C'était perdu d'avance. Elle aurait eu le dernier mot. Au milieu des disputes, il avait senti le père un peu de son côté. Mais le père, comme d'habitude, avait fini par se courber. Alors, pas le choix, il était descendu, avec des tenailles dans les entrailles. Pas le choix, pas le choix, pas le choix. Ta gueule, l'oiseau, pas le choix, tu parles, c'est juste le courage qui lui avait manqué. La possibilité de choisir était bien là, quelque part, paumée dans son propre brouillard, étouffée par les croyances des autres, la peur des conséquences. Les pelletées de la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien changer. Bien sûr qu'il aurait pu dire non. Mais alors il aurait affronté une tempête humaine, puis écopé des foudres de la mère, de la déception du père, des regards obliques du village. Il aurait connu les éclairs, les turbulences, les nuages. Pourtant, bizarre, il sentait aussi que quelque chose aurait pu le protéger, le libérer même de toute cette adversité. Oh, certainement pas un bon Dieu quelconque, plutôt une part de lui-même qu'on avait endormie, une voix muselée prête à rugir, ou encore une sorte de fleur dont il percevait le parfum délicat derrière l'odeur épaisse de son propre fumier. La voix ne demandait qu'à se faire entendre et le parfum à se répandre, mais il fallait du cran pour aller dénicher le diamant sous la croûte noire. Alors, par peur de décevoir le père, peur aussi d'être encore moins aimé de la mère, il avait baissé les bras. Il avait même espéré, en allant dans le sens maternel, récupérer quelques miettes de considération. Tu parles. Il était donc descendu dans la mine pour tous, sauf pour lui-même, descendu le dos courbé, comme le père descendu, avec un tel sentiment d'abdication qu'il lui semblait aujourd'hui que c'était le bon Dieu de la mère, le diable du père, qui lui avait fait tomber le minerai sur la gueule. Mais sans le tuer, en lui laissant juste assez de force pour se rendre compte que jusqu'à présent, il avait vécu la vie des autres. Il n'avait pas voulu de la mine ? La mine le lui avait bien rendu. Tout ça pour ça. Voilà ce qu'il pense là, tout de suite, au fond de son trou. Tout ça pour ça. Ta gueule, toi. Parmi tous ces souvenirs qui emplissent sa tête, il y en a un particulièrement douloureux. Sa mère ne s'est jamais remise d'un enfant mort-né avant que lui vienne au monde. On ne lui dit rien. On ne lui explique pas qu'il y a eu un fils avant lui. Il sent seulement que sa vie sonne faux, que la mère a de drôles d'idées. Il a 3 ou 4 ans. Elle l'emmène au cimetière presque tous les jours. « Faut aller arroser », qu'elle répète. Elle le tient ferme par une main et de l'autre promène des glaïeuls, des violettes, de la bruyère, selon l'humeur, les saisons. Lui marche à côté d'elle, le nez sur le trottoir, docile. Il traverse le village silencieux. Puis le cimetière apparaît, qui fait grincer sa grille en fer. La mère va au robinet, décroche un des bidons pendus au crochet sur le mur, le remplit. Il s'enfonce dans une allée, échoue toujours devant la même tombe. Parce que faut arroser. Mais lui, absorbé par les fleurs qui embrasent les alentours, lui ne voit même pas les lettres et les chiffres gravés dans le marbre couleur d'anthracite que la mère fixe gravement. Il sent seulement qu'à cet instant, le silence pèse encore plus que d'habitude. Il scrute sa mère sans la voir, les lèvres vissées par le silence, ne pose aucune question, n'obtiendrait pas de réponse. Elle arrange les pots, bichonne la dalle, la lèche de ses regards contrits, la débarrasse des pétales fanés. Enfin, ils s'avancent, franchissent la grille de fer. La mère jette les fleurs décomposées dans une grande benne. Elles aussi ont leur cimetière. Un jour, il sait lire le prénom qu'il déchiffre sur la tombe est le même que le sien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est vivant et il est mort? Vertige. Il n'ose rien demander. En lui, ça s'écroule. Au fil du temps, il comprend mieux, un peu aidé par l'oncle au violon. Il est arrivé au monde pour jouer les remplaçants, un an après la mort du petit. On lui a donné le prénom du mort pour le souvenir, pire encore, pour donner une seconde vie au mort. Le père n'était pas pour, mais la mère, coriace, avait insisté. En lui collant une vieille étiquette sur le front, la mère avait mis au monde un fantôme, Fernand, le mort vivant. Il en avait tété de la douleur de la mère. Dans son ventre déjà, elle l'avait nourri de son placenta tout chagrineux. La place était prise par le petit, et lui était venu au monde dans des ruines. À peine né, qu'il traînait déjà son premier wagon. Ensuite, il avait fait de son mieux pour s'affranchir de ce poids. Mais le petit était demeuré là, sur son dos. Vivre avec un petit sur le dos, ça déséquilibre. Enfant, il s'écroulait pour un rien. Personne ne comprenait, lui non plus. Il sentait seulement que quelque chose rôdait autour de lui. Quelque chose qui lui faisait des crocs en jambes et le mettait à terre sans raison. « C'est pas Dieu possible de dégringoler comme ça sans arrêt !» rouspétait la mère. Non, ce n'était pas le Mario qui s'amusait à le flanquer par terre. Il était gentil avec lui, le Mario. C'était son meilleur copain. Alors qui? Qu'est-ce qu'il en savait, lui? Il savait juste qu'il se retrouvait le cul par terre et que c'était la faute au fantôme. Au fantôme, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme imbécilité? Et les souvenirs continuent de s'abattre sur lui. Les souvenirs et les regrets aussi. Il se met à rêver de vieilles pierres de couleur provençale, de l'odeur mauve des lavandes. Oublie son pays de mine, sa région sans mer ni montagne, les murs gris de sa maison sans âme, le charbon sur le plumage des oiseaux des champs. Lui aurait voulu de l'océan, des terres sauvages, des respirations de bord de littoral, des bruyères, des ajoncs, des genêts. Ruer vers l'ouest, foutre le clan vers le bleu, le rose, le jaune des côtes, tout là-bas en bordure de pays. Il y aurait eu le crachin, bien sûr, mais ça n'aurait pas été grand-chose à côté des ciels chagrins sous lesquels il avait grandi. Il aurait voulu s'écarter du village, du minerai, du brouillard, expulser la grisaille de sa caboche, comme des mains tordes pour l'essorer un torchon imbibé. Troquer le gris des cités minières contre le bleu atlantique, fuir son berceau, s'arracher à ses racines à la manière dont le père extirpait les mauvaises herbes, détourner son regard des usines, de l'acier, des hauts fourneaux. Mais il baignait dans le terne, empestait la purée de pois, comme la caque pue le hareng. Il était né ici, et se sentait au purgatoire pour des fautes qu'il n'avait pas commises. Un jour, il avait songé à s'enfuir, puis il avait renoncé. Il savait bien qu'il n'aurait fait que déplacer avec lui des tombereaux de brumasse. Mais ses regrets s'estompent peu à peu, alors qu'il est toujours au fond de la mine, immobilisé. Et ses regrets font place à une prise de conscience que ses racines sont ici. À présent, coincé sous la terre, il sent qu'il vient de là. Les paysages de son enfance lui sautent à l'esprit comme autant d'évidences. S'il s'était sauvé tout à l'ouest, les vagues océanes n'auraient pas réussi à déblayer la terre de sa mémoire. Les bandes de cambrousse cousues, le patchwork marron vert, les parallélogrammes de blé, de colza, de jachère, chaque épi, chaque fleur est désormais une certitude. Ses racines sont ici. Il aurait pu s'enfuir, mais quelque chose l'aurait irrémédiablement ramené vers son pays de champs, sa région de mines, vers les ciels rouillés et les cigares fumants des usines qu'à 20 ans il croyait immortels. Depuis qu'une nuit, le Mario avait dit, pointant du haut le haut fourneau, « Hé, Nando, regarde là-haut, c'est la flamme éternelle. » Il rentrait d'une java, il était 3 heures du matin, le Mario conduisait. Flamme éternelle, les mots l'avaient embrasé, avaient dansé comme le gaz bleu follet, là-haut qui ne se laisse voir que de nuit. Deux mots flamboyants qui avaient déchiré la face terne du monde. Il s'était engouffré dans ce trou de poésie, s'était laissé glisser dans l'irréel, embarqué dans des gerbes de fantasmagorie, de flambeaux olympiques et d'enflers bleu pâle. La dauphine bleue longeait la vallée de fer et d'acier qui suffoquait sous son nuage orange. Sur les hauteurs, un spectre phosphorescent allumait les ténèbres. C'était Marie. Elle veillait, ses pommes blanches tournées vers la plaine. Il avait alors imaginé la vallée, les usines, tout un monde de sidérurgie sous une bulle invisible, protégée par la grâce de la Vierge de Fonte. Puis il s'était endormi, sans se douter qu'un jour, l'acier cesserait d'irriguer les veines du pays. Voilà, je vous laisse découvrir comment cet homme, donc enfermé sous terre, prisonnier des ténèbres, retrouve une sorte de volonté de vivre, un désir de lumière qui l'arracherait aux ténèbres où il se trouve. C'est un magnifique premier roman, à la fois sombre et poétique, où de nombreuses métaphores concrétisent l'inconscient du narrateur. Par exemple, cet oiseau noir qui matérialise sa voix intérieure. Cette façon de creuser son existence, comme un mineur de fond creuse les galeries de minerais. Voilà, c'était donc Berline, de Céline Rigui, publié aux éditions du Sonneur en 2022. Je termine en vous lisant qu'une lecture à voix haute de ce roman sera faite à la Loupiote le 17 novembre à 19h et que Littera 05 et la Loupiote recevront l'autrice Céline Rigui justement pour son roman Berline. Cette rencontre se fera à la Nouvelle Librairie le 22 novembre à 19h. Merci pour votre écoute et à bientôt.